6h01, mercredi 20 janvier. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM avec des températures de janvier. C'est autour de moins 9 ce matin avec de la faible neige, quelques flocons ici et là, avec toujours du temps nuageux. Ce matin, on prévoit donc que les flocons en petite quantité vont meubler la matinée. Par la suite, ce sera une alternance de soleil de nuages en mi-journée avec un maximum autour de moins 7. Ce soir, les températures tombent. C'est autour de moins 15 degrés durant la nuit. Et si vous aimez le calcul du refroidissement éolien, là, c'est autour de moins 21. Pour ce qui est de jeudi, c'est couvert et la neige commence durant la matinée. On parle d'une accumulation pour la journée de 2 à 4 cm. Météo Média dit que ça pourrait aller, dans certains cas, jusqu'à 10 cm de neige demain, avec un maximum de moins 5. Puis on termine la semaine, soleil et nuages, autour de moins 4 degrés. Pour la fin de semaine, on prévoit quand même du beau temps, c'est-à-dire samedi, du soleil moins 8, moins 16 la nuit et dimanche, ensoleillé, autour de moins 9 degrés. Je vais vous parler tantôt, bien sûr, de tout le débat sur les voyages, sur les itinérants, sur les problèmes de vaccination, donc d'approvisionnement. Mais d'abord, ce matin, bien sûr, les regards se tournent vers les États-Unis. C'est une journée historique. Dans quelques heures, Trump va quitter la Maison-Blanche et tout de suite après, Joe Biden sera donc assermenté comme nouveau président. Kamala Harris devient la première femme noire qui sera assermentée comme vice-présidente. Et c'est un peu ce que Biden disait hier. Il y a 12 ans, je suis arrivé avec le premier noir comme président. J'étais son vice-président et aujourd'hui, je retourne donc à la Maison-Blanche comme président, mais avec Kamala Harris, cette femme noire qui devient la première. Alors, il y a plusieurs éléments historiques et tout ça dans un contexte, vous l'avez sans doute vu, où la ville, la capitale, est complètement barricadée. Normalement, dans les rues pour la cérémonie d'assermentation, on retrouve des citoyens qui sont tout au long du parcours, du cortège. Là, on a remplacé, pour des raisons de sécurité, les citoyens par des drapeaux américains. Ça donne des images quand même assez extraordinaires. Et cette cérémonie qui va se dérouler à midi, sous haute surveillance, 25 000 membres de la Garde nationale, ajoutés bien sûr la police, le FBI, les services secrets, parce qu'on craint bien sûr que des groupes extrémistes tentent de venir perturber, si ce n'est que de s'en prendre à Joe Biden, lors de la sermentation. J'écoutais différents experts durant la journée d'hier et tous semblent dire deux choses. La première, est-ce que quelqu'un va tenter de faire un coup d'éclat? Est-ce que quelqu'un même qui fait partie du système de sécurité qu'on aurait échappé pourrait poser un geste violent, spectaculaire? Il n'y a pas d'informations, disent-ils, qui vont dans ce sens-là. Est-ce que le courant complotiste... Et ce ne sont pas tous les Trumpistes là, qui sont des adeptes des armes et des fous furieux. Là. Mais il y a, à l'intérieur de ce mouvement, un pourcentage. Et on les voit, ils sont très bruyants, différents petits groupes, les Boogaloo, les Proud Boys. Alors, eux sont quand même très actifs. Et cette pensée-là ne va pas disparaître. 50%, un peu moins, des Américains ont voté pour Trump, pour toutes sortes de raisons. Mais il y a cette frange. Et hier, on sait que Trump est très bon là, pour se promener du rôle du méchant, du promoteur du mal à celui qui se veut le rassembleur. Après avoir incité les gens, il n'y a pas juste les démocrates qui le disent. McConnell au Congrès a dit hier, ce sont les propos de Trump qui ont galvanisé la foule, qui s'est rendue saccager le Capitole et fait cette tentative d'insurrection. Et puis hier arrive cette espèce de discours où il dit, bon ben, le moment est venu de quitter, et l'Amérique doit poursuivre dans la direction, souhaitant pratiquement bonne chance, le good luck à l'administration Biden-Harris. Et au même moment, tu sais qu'il ne sera pas là. Il n'a pas accueilli les Biden à la Maison-Blanche, alors que les Obama, puis on peut se mettre dans la peau de Barack Obama et de Michelle Obama, t'as-tu le goût de recevoir Donald Trump à la Maison-Blanche? Mais tu sais, arrive un moment où le protocole, puis disons, les traditions doivent l'emporter. Et ce qui n'est pas le cas, là. Lui, il part ce matin, là, il fait ses boîtes, bye, puis il veut rien savoir de l'arrivée de la nouvelle administration. Et puis, hier, juste pour compléter là-dessus, Il a, en soirée, très tard, là, fait une liste de 143 personnes pour lesquelles il accorde le pardon présidentiel ou encore où on a commué, donc diminué, une peine de prison. La plupart des gens qui ont eu cette faveur présidentielle, bon, le plus connu, c'est Steve Bannon, qui a été un de ses conseillers, avec qui s'est chicané, qui est parti en claquant la porte. Bannon a dit des affaires épouvantables sur Trump. Trump a dit des affaires épouvantables sur Bannon, mais en bout de ligne, ils ont l'air de se compléter. Et Bannon, qui est accusé, il n'a même pas été jugé d'une affaire de fraude lors d'une campagne de financement pour le mur. Ben lui, il est donc gracié complètement. Puis les autres, ce sont des gens du parti, des gens qui ont contribué à la caisse, des élus qui ont été pris dans un paquet de scandales plus ou moins importants de fraude, de corruption. Il y a également un rappeur qui bénéficie de la clémence. Alors, bref, 143 personnes au total. Et ce qui montre, dans le fond, que le trait commun de ces gens-là, c'est d'avoir gravité ou d'avoir soutenu publiquement le président Trump. Donc, l'entourage ou encore des gens qui ont joué un rôle d'allié pour le président. Et dernier point là-dessus, est-ce qu'il va profiter des dernières heures, là, parce qu'il est président jusqu'à midi, pour s'auto-protéger et accorder le pardon aux membres de sa famille? Toutes sortes de rumeurs ont circulé hier et la plupart semblent dire ben, s'il y avait eu à le faire, il l'aurait fait. Mais quoique, avec lui, on ne sait jamais, il peut poser un geste d'éclat. Bon, abordons le dossier maintenant, COVID et des restrictions. Beaucoup de choses hier. D'abord, je veux commencer par le délicat dossier des voyages. J'ai entendu plein de commentaires, de réactions. Si on résume les positions officielles, M. Trudeau dit « c'est pas le temps d'aller dans le sud, c'est pas le temps de voyager ». Et je vous prie, chers Canadiens, de rester à la maison, de ne pas prendre l'avion, sauf pour des voyages essentiels. Plus tard, M. Legault arrive en point de presse et dit « ça n'a pas d'allure d'aller dans un tout-inclus, à Punta Cana dans le contexte actuel, puis Cancun. Et il faut que le fédéral, parce que ça relève du fédéral, stoppe les vols, ferme la frontière, sauf pour les voyages essentiels. » D'abord, j'écoutais un prof de droit de l'Université Laval à Radio-Canada hier qui a très bien résumé l'affaire. Tu sais, M. Trudeau puis M. Duclos nous sortent la Charte des droits en disant on a le droit de voyager, puis bon, c'est sûr. Mais comme on a le droit de circuler, puis actuellement on ne peut pas entre 8 heures et 5 heures parce qu'il y a un couvre-feu et que, au nom de la santé publique, c'est une restriction. Pas tout le monde qui pense ça. Il y en a qui trouvent que c'est exagéré et que ça ne donnera pas de résultat. Mais bon, il y a, je pense, une contestation que j'ai vue à date devant les tribunaux, là. Mais c'est commode, je reprends les termes du prof de l'Université Laval, c'est commode pour Ottawa de dire qu'il y a la charte. En même temps, là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'un voyage essentiel? Hier, M. Legault nous a expliqué que Youri Chassin, qui est parti retrouver son mari au Pérou, c'est un voyage essentiel au même titre qu'un décès dans une famille. Je comprends qu'il ne peut pas le blâmer, il l'a autorisé à voyager. Mais moi, je vous dis la même chose depuis le début. Je pense que tous les députés, pour donner l'exemple, n'auraient pas dû voyager ou ne devraient pas voyager. Je comprends que c'est plate, là, M. Chassin va aller voir son mari, il ne l'a pas vu, mais combien de gens ont un paquet de frustrations? Puis le public peut faire ce qu'il veut quand c'est permis. Mais quand t'es un élu, tu peux pas. Fait que, tu sais, deux poids, deux mesures. Puis là, je le sais, me recevoir les courriels de bêtises de mes amis caquistes qui ont dit, on sait bien, Chassin, lui, c'est différent, c'est pas pareil, pas aller sur une plage. La question, c'est pas de savoir ce qu'il fait pendant le voyage. La question, c'est de dire, on dit aux gens, voyagez pas. Bon, ben, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, comment t'empêches les gens de voyager? Depuis des mois qu'on vend des forfaits. Les compagnies veulent se refaire. Puis là, tu achètes un forfait, c'est légal. Là, on a eu la saga des vols annulés où les compagnies aériennes ont dit « on ne vous rembourse pas, on vous donne des crédits ». Ottawa se traîne les pieds dans les négociations avec les compagnies aériennes. Air Canada est d'une arrogance, on le sait. Insupportable. Je ne parle pas des employés, là. Je fais bien attention pour ce qui est de la nuance. Parce que j'ai voyagé souvent avec Air Canada Et je parle pas des agents de bord, je parle pas des pilotes, je parle pas des employés, je vous parle de vos boss qui sont baveux et arrogants. Et là, on permet tous ces voyages. Des gens m'envoyaient hier des forfaits qu'on présente. Et là, on dit, ouais, mais là, c'est le Québec qui contrôle la loi sur les agents de voyage puis la protection du consommateur. Puis, ils ont juste à interdire ça. OK? Les agents de voyage en arrachent actuellement. Puis, le mot est faible. Puis, si tu passes pas par un agent de voyage, tu vas passer par qui? Tu vas t'acheter ton voyage en ligne. Puis, tu vas prendre peut-être un vol pour aller à New York en disant que c'est un vol essentiel pour affaires. Puis, une fois sur place, là, tu vas prendre un autre vol pour aller quelque part dans le sud. Ce que je veux dire, c'est extrêmement difficile à gérer. L'option qui reste, c'est quoi? Puis d'abord, c'est quoi un voyage essentiel? Puis comment tu vas déterminer que c'est un voyage essentiel? Sérieusement, là, on a de la misère à gérer des commerces. Là arrive la proposition de la Nouvelle-Zélande, qui est de dire, tu veux voyager? Tu vas aller en quarantaine, dans un hôtel, à tes frais, pour 14 jours. Parce qu'on s'entend que c'est une joke, les contrôles au fédéral, là. T'sais, les gens arrivent. Probablement que la majorité des gens sont respectueux, avec quelques à côté. Mais il y a toujours ce noyau. Puis là, les gens disent, ouais, mais il n'y a pas tant de cas de COVID qui arrivent de l'extérieur, qui montrent qu'il y a de la contagion. Ça se passe dans les écoles, ça se passe. La contagion, elle est communautaire. Il y a des variants de la COVID qui commencent à inquiéter. Que ça soit britannique, que ça soit l'Afrique du Sud. Puis, quand vous allez dans des endroits de villégiature, il y a du monde d'un peu partout. Il me semble que c'est pas dur à comprendre qu'il y a un potentiel de ramener. Alors, est-ce que les gens sont prêts à payer, en plus du forfait, 2 semaines dans un hôtel où ils vont être confinés? Ça peut être dissuasif pour un paquet de monde. Alors, tu sais, je sais pas comment on peut contrôler ça. Puis, je suis très conscient que la mairesse de Montréal, Mme Plante, elle a raison. Parce que le monde débarque beaucoup à Montréal, là. T'es pogné avec ça, avec ces éclosions qu'on a dans des quartiers chauds de Montréal qui sont les pires du Québec. Puis elle dit, le fédéral se tourne les pouces, puis M. Trudeau implore, dit aux gens de ne pas voyager, puis après ça, il dit, si jamais vous continuez à acheter des forfaits puis que mes torieux, je vous vois partir, bien là, je vais peut-être sévir sans préavis. Il me semble que le niaisage, ça commence à faire, là. Envoie un message clair, prends des mesures claires. Parce que, tu sais, tu peux pas te promener de dire aux compagnies, OK, vous allez annuler vos vols. Ça veut dire quoi? Tu bloques les vols nolisés, les vols vers New York, t'es maintiens, les vols vers Paris, t'es maintiens. J'ai des gens qui travaillent dans le domaine qui m'écrivent, M. Arcand, les avions sont pleins. Comment tu dis, OK, toi, là, tu t'en vas voir ta mère qui est malade, toi, tu t'en vas voir la famille de quelqu'un qui est décédé. Comment tu prouves ça? Je veux dire, ça a pratiquement pas de bon sens. Alors, est-ce que on est prêt à mettre des mesures de restriction. Puis là, après ça, Legault a dit, si jamais le fédéral ne le fait pas, on va le faire. Puis là, on va demander à la police, on va dire que la police a le dos large de ce temps-là, là, d'aller vérifier, d'aller cogner aux portes pour voir si les gens respectent, sinon on impose les amendes. Alors, c'est un peu ça, la problématique des voyages. Et juste pour compléter les voyages, là, à la une du Journal de Montréal ce matin, on donne des exemples de rabais. T'sais. Air Canada qui vous offre Caillou Coco à 779$, Riviera Maya à 1079 pour WestJet. Un voyage pour 4 à Cuba sur Air Transat, un peu moins de 3000. Puis Sunwing à Punta Cana pour 2 à 1500$ ou 1100$. Trouvez l'erreur, là. Trouvez l'erreur. Puis là, après ça, on va dire, non, vous ne pouvez plus décoller, vous ne pouvez pas, vous avez acheté des forfaits. Puis là, ça amène la semaine de relâche. On a un sondage de Somme ce matin qui nous dit quoi? Que les Québécois sont divisés. En gros, là, c'est 50-50. Sur la semaine de relâche, est-ce qu'on l'accorde ou pas? M. Legault a dit hier, on l'accorde, mais en même temps, si vous prenez la semaine de relâche, restez chez vous. Et c'est sûr que ça divise parce que on regarde notre situation comme parents, là, puis je sais que la tribune a fait jaser pas mal l'autre jour. Des gens qui sont dans le réseau de la santé, qui ont vu leurs vacances annulées, qui sont à bout, qui sont tannés, qui sont épuisés, puis qui se disent, hey, comment ça se fait qu'il y a une semaine de relâche pour les profs? Puis là, moi, à gérer les enfants pendant la semaine de relâche, puis déjà, je fais partie du travail essentiel, c'est injuste. J'ai beaucoup pensé à ça, moi, la semaine de relâche. Puis quand j'ai posé la question au ministre Roberge, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut récupérer du temps perdu pendant ce temps-là? Là, j'ai eu le déluge des profs qui me disent, c'est du prof bashing, c'est épouvantable. puis vous savez pas c'est quoi enseigner pendant cette période-là. Je vais prendre juste l'exemple des profs qui sont des enseignants-enseignantes en éducation spécialisée. Il n'y a pas de travail à distance, il n'y a pas d'enseignement à distance pour eux autres. Là. Puis je comprends qu'ils sont à bout. Parce qu'ils travaillent avec des enfants pour qui ça n'existe pas, la distanciation, puis le respect des règles, puis qui sont tannés, puis qui sont épuisés, ces profs-là, puis les enfants aussi. Puis la question, c'est est-ce que les enfants ont besoin de cette pause? Puis là, tu te dis, OK, on les sort des écoles pour une semaine. Ils vont faire quoi pendant la semaine? Est-ce que ça va donner lieu à des rassemblements? C'est pas une gymnastique facile. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le gouvernement a décidé que la semaine de relâche était, maintenue. Le dossier des itinérants. Déjà, je trouvais l'explication de M. Legault un peu tordue sur Youri Chassin, là, sur les itinérants. Excusez-moi, là, si la police est capable de distinguer quand une femme promène son mari avec un collier, le faisant passer pour un chien, qu'un policier capable de dire « on ne pense pas que c'est un chien, pense qu'ils ont assez de jugement », ben, je pense que les policiers ont assez de jugement pour savoir si c'est un itinérant ou pas. Et Valérie Plante a raison quand elle dit « Écoutez, là, il y a des soirs où c'est plein, puis d'autres soirs où il y a de la place. Mais dans la vie, on se retrouve avec des gens qui ont peur de la police, pour toutes sortes de raisons, on l'a expliqué hier. Alors, on demande toujours l'impossible à la police dans ces cas-là. Je ne connais pas un policier qui se lève un matin qui dit « m'a donné une étiquette de 1 500$ à un clochard, un itinérant, une personne sans abri pour le plaisir ». C'est pas vrai, ça. Pas vrai. Les policiers, là, on leur demande de gérer ces questions sociales-là. Puis un chauffeur de la STM qui m'a écrit, qui a bien raison. Il y a des autobus qui circulent la nuit. On s'entend qu'il n'y a pas grand monde avec le couvre-feu. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas des autobus de la STM avec des travailleurs sociaux, des intervenants, des gens qui peuvent jouer un rôle puis qui ont la confiance? Puis là, ça me ramène tout le temps les problèmes de santé mentale, puis comment est-ce qu'on gère, puis là, on fait appel au psy. C'est comme si on recommençait à chaque fois. Il dit, pourquoi on ne se promène pas, puis qu'on va au-devant d'eux, puis on essaie de les amener au chaud, puis de les protéger durant cette période-là? Et moi, je pense qu'un policier est assez intelligent pour dire, ça, c'est un itinérant, puis ça, c'est un clown qui essaie d'arranger, puis de passer dans une brèche dans le système. Puis il nous prend pour des caves. Il me semble que ça ne doit pas être si compliqué. Mais là, hier, j'écoutais ça toute la journée, le point. Oui, mais là, si on fait ci, mais là, si on fait ça, puis là, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. En terminant, pour ce qui est des vaccins, bon, ben c'est pas trop compliqué. Pfizer dit la semaine prochaine, commande zéro. Et progressivement, on devrait rattraper pour permettre aux provinces, dont le Québec, d'atteindre les objectifs. On parlait avec quelqu'un de chez Moderna ce matin. Beaucoup de gens me disent, écoute, il arrive quoi avec l'autre vaccin? On va essayer de le savoir. Et pourquoi l'Europe est favorisée? Bien, l'Europe est plus pesante que le Canada. Puis on ne sait pas ce qu'il y a dans les contrats non plus. Puis l'autre question, des amis de l'industrie m'ont un peu soufflé à l'oreille. Ça se peut-tu que Pfizer ait pris beaucoup, beaucoup de commandes en sachant qu'il ne serait pas capable de livrer ou encore qu'il détourne des stocks vers des endroits où ils sont prêts à payer un peu plus? Puis c'est quoi les clauses de punition dans les contrats? Je ne sais pas, moi. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais ça mérite d'être posé. Et ça veut dire donc pas de dose pour la semaine prochaine. Et également, rapidement, dans les autres nouvelles, on nous dit ce matin dans Le Devoir, entre autres, qu'il y a des ventilateurs qui dorment en réserve. Alors, Ottawa a acheté de l'équipement médical. Mais on l'a dit, le problème, c'est pas le nombre de lits, c'est pas l'équipement, c'est le personnel pour opérer les équipements en question. Et aussi, Pierre-Carl Péladeau est allé devant le CRTC hier, c'est le renouvellement des... permis de Radio-Canada, CBC. Lui, en gros, ce qu'il dit, c'est que Radio-Canada doit jouer le rôle d'un service public payé avec les taxes, puis pas se lancer dans la compétition avec le privé. Donc, arrêter d'acheter des séries, arrêter de faire des émissions à succès, parce qu'il faut dire que ça marche, Radio-Canada, en termes d'heures de grande écoute, là, avec beaucoup de séries populaires. Alors, il dit, revenez à des émissions peu fréquentées, pas mal ceux qui disent entre les lignes. Puis laissez-nous le marché de la pub, là. Sortez de la pub, déjà que c'est difficile. Rappelons-nous qu'il ne voulait pas que Bell mette la main sur V à l'époque parce qu'il disait que ça faisait une compétition déloyale. On va lui parler un peu plus tard ce matin. Et c'est intéressant aussi dans le Journal de Montréal, un petit mot pour vous dire qu'ils ont fait les calculs. Et c'est selon une firme, là, on s'entend qu'il y a moins d'autos sur les routes, moins d'autos, moins d'accidents. Donc, les assureurs automobiles ont fait des économies de 1,6 milliard de dollars au Québec l'an dernier. Et rappelons-nous de la saga au printemps quand on recevait nos avis avec de bonnes augmentations. Est-ce que ça veut dire que ça va baisser? Est-ce que ça veut dire que ça va coûter moins cher? Point d'interrogation. Allons voir ce qui se passe sur la 40.